RCF. Vous êtes sur RCF le 18-19 en région, présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Micro ouvert, casque sur les oreilles, on est prêt pour vous accompagner pendant 50 minutes dans ce magazine régional sur RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardenne, avec notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard, à mes côtés. Marion qui a pris la place de Jean-Pierre ce soir. Marion, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Jean-Pierre que l'on retrouvera dans quelques minutes avec un maire qui lui parle, ce sera Jean Barois qui est maire de Villers-le-Tilleul dans les Ardennes. Et puis on le retrouvera un peu plus tard également dans cette émission. Nous évoquerons le carême, évidemment, en ces 40 jours qui nous rapprochent de la fête de Pâques. On sera ce soir avec le père Étienne Ruatugili. C'est l'occasion de souligner que des programmes spéciaux auront lieu la semaine prochaine, dès le mardi soir, à la place du magazine régional. Vous aurez notamment la messe chrismale pour le diocèse de Châlons sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, pour le diocèse de Reims et des Ardennes sur les ondes de RCF Reims-Ardennes. Et puis, pendant le Triduum Pascal, des programmes spéciaux vous accompagneront depuis le monastère Saint-Thierry dans le diocèse de Reims et des Ardennes pour tout le réseau de RCF. On revient à la programmation plus spécifique de ce jeudi soir, donc dans le magazine régional, où l'on soufflera une belle bougie, puisque l'on parlera des 150 ans du collège Saint-Étienne de Châlons en Champagne. L'anniversaire sera fêté samedi. Céline Cartier et Catherine Nadier nous présenteront les festivités. On fera un focus sur une très belle entreprise, Initial Expertise, basée à Champigny, dans la Marne. On parlera donc de sujets RSE avec Stéphane Flandre, qui est le fondateur, président, directeur général de Initial Expertise, et avec Arnaud Degler qui est le directeur communication de cette entreprise. Et puis pour commencer le jeudi, vous connaissez sa voix, vous connaissez ses analyses pertinentes, c'est Gérard-Marie Henry qui est avec nous par téléphone depuis la Bretagne. Il profite déjà du soleil dans l'ouest de la France. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Gérard-Marie, on avait parlé la semaine dernière au sein d'une chronique de l'investissement en bourse et vous vous êtes dit pourquoi pas parler justement de comment investir en bourse cette semaine avec plusieurs solutions à nous proposer. La première solution que l'on peut évoquer, c'est confier son investissement à une SICAV. Qu'est-ce que cela signifie, Gérard-Marie Henry? Je ne sais même pas si j'ai prononcé correctement l'acronyme.
Si, c'est très bien, très bien. Donc une SICAV, c'est tout simplement une société d'investissement qui a un capital variable parce qu'elle va acheter des actions en bourse et le cours des actions peut monter ou descendre. Donc, société d'investissement à capital variable, c'est elle qui fait le travail, qui va donc acheter les actions et vous, vous allez acheter une part de cette entreprise, une part que vous pouvez revendre quand vous voulez. Et donc, votre part, elle va évoluer comme évoluent les actions qu'a acheté la SICAV et donc vous allez bénéficier évidemment de la hausse éventuelle des cours en bourse. Le bémol, il est facile à comprendre. Le bémol, c'est que les gestionnaires de cette SICAV, ils vont quand même se faire payer. Et donc, vous n'aurez pas l'intégralité de l'évolution positive des cours des actions qui ont été achetées. Vous aurez ça moins ce que la société en question, la SICAV en question, prend comme frais de gestion. Mais c'est une solution qui est extrêmement simple, donc vous dites à votre banquier, j'aimerais bien ouvrir un compte sur une SICAV action. Alors évidemment, il y a d'autres SICAV, il y a des SICAV obligataires, celles sur lesquelles je suis, puisque compte tenu de mon âge, je sais qu'il vaut mieux passer sur des actifs qui sont moins variables, les obligations, ça bouge pas beaucoup, alors que les actions, ça peut tomber au moment où justement je voudrais mon capital. Mais par contre, pour quelqu'un qui a un âge normal, on va dire, entre 30 et 60 ans, c'est assez intéressant de constituer, donc, par l'intermédiaire de cette SICAV, un capital qui va évoluer gentiment, puisque la bourse, vous comprenez bien, elle reflète l'état de l'économie, et l'état de l'économie, il a une tendance croissante à faire 2-3%. Et cette année, par exemple, alors pour quand même que vous compreniez pourquoi il faut investir en bourse, cette année, les entreprises françaises qui sont cotées en bourse ont versé à leurs actionnaires, à ceux qui détiennent des actions, entre 90 et 100 milliards d'euros
c'est pas mal.
Ont été donnés. Et alors, ce qui est assez extraordinaire et qui me désole, bien sûr, c'est que ces actionnaires, 40%, ils sont pas français. C'est ce qu'on appelle des non-résidents, c'est-à-dire des étrangers. qui ont pris 40% des 90 milliards, qui se sont barrés de France au lieu d'aller dans la poche des Français. Mais les Français n'aiment pas la bourse, ils comprennent pas, c'est trop compliqué pour eux, alors qu'ouvrir une SICAV action, c'est assez simple. Donc vous voyez déjà le phénomène, hein, la bourse, 90 milliards de dividendes. Je ne parle pas de la hausse du cours des actions que vous pouvez avoir bénéficié, mais là, c'est simplement ce qu'on vous donne à la fin de l'année parce que vous avez gardé votre action pendant un an. L'entreprise partage les bénéfices avec ses actionnaires.
Gérard-Marie-Henri, je me permets, je vous interromps parce que vous avez ce regret de dire que ce sont beaucoup les étrangers, quelque part, qui se gavent sur ces actions françaises. Oui. Je me permets de vous interrompre parce que c'est vrai que vous dites que les Français sont un petit peu frileux, n'y connaissent rien forcément à la bourse ou en tout cas pas grand-chose. À partir de quel montant on peut vraiment investir en bourse? Combien il faut estimer, entre guillemets, jouer pour pouvoir entrer dans la partie?
Bon, on va dire, on va se mettre de côté 200 euros par mois. C'est peut-être pas trop grand, quand même, c'est assez jouable. On va dire, tiens, je vais, et ça va être la deuxième partie, c'est 200 euros par mois, est-ce que je les mets dans une SICAV qui fait le travail pour moi? Ou est-ce que je prends les choses en main, j'essaye d'aller un petit peu plus loin, je vais ouvrir ce qu'on appelle un compte-titre. Donc un compte-titre, c'est pareil, vous allez à votre banque et vous dites, je voudrais ouvrir un compte-titre pour pouvoir acheter des actions. Elle va dire, ok, je vous l'ouvre. Donc elle va faire les démarches administratives. Et à partir de ce moment-là, c'est vous qui allez décider d'acheter les actions. Vous allez regarder un petit peu, vous allez dire, tiens, LVMH, ça doit être pas mal quand même. Hein, le cognac, le champagne, le Vuitton, etc. Donc je vais regarder les actions LVMH. Bon, elles sont un peu chères, je vais pas en acheter 36, je vais peut-être en prendre une. Puis je vais regarder d'autres belles entreprises françaises, celles sur lesquelles les étrangers viennent, bien sûr. Hein, à peu près la moitié du capital de LVMH est détenu par des investisseurs étrangers. Donc je vais m'ouvrir un compte-titre. Et sur ce compte-titre, avec mes 200 euros par mois, je vais pas forcément toutes les semaines changer d'action, mais je vais peut-être regarder, tiens, si je pouvais. Et puis ça va être intéressant de savoir qu'est-ce que vont faire les entreprises, quels sont leurs résultats. Donc je vais avoir effectivement un petit peu de travail à regarder tous les jours sur les trucs bourse directe, etc.
Mais là, on se sent maître du jeu, on a la manette en main quelque part.
On a la manette en main et c'est vous-même qui allez bénéficier de l'ensemble des gains qui vont être associés à ce compte-titre. Alors ça, c'est la première solution. Donc, et on va ajouter à cette première solution une deuxième solution qui s'appelle un plan d'épargne action. Donc là, fiscalement, va être intéressant. Alors bien sûr, l'argent que vous allez mettre dessus pour qu'il soit fiscalement intéressant, il ne faut pas que vous le retiriez tout de suite. Donc vous allez dire, je vais mettre sur mon plan épargne action, je vais mettre 1000 euros. Et là, vous allez les laisser dessus. Et là, ce que vous allez avoir sur ce plan d'épargne action, ça va être justement les dividendes, puisque il faut pas sortir avant 8 ans. Donc vous allez avoir tous les ans, LVMH, vous versez sur l'action, ou les deux actions, ou les trois, je ne sais pas combien vous pouvez en acheter, que vous avez mis en stock, et il va vous verser les dividendes afférents à ce capital. Et donc vous avez d'un côté le compte-titre qui vous permet d'essayer de regarder s'il n'y a pas des toutes petites entreprises dont le cours est en train de monter. Vous allez faire ce qu'on appelle boursicoter. Donc ça demande du temps et puis c'est pas forcément gagnant. Puis de l'autre côté, vous avez le truc tranquille. Vous avez mis les actions, vous n'avez pas besoin de les bouger. Elles sont là, c'est des belles sociétés françaises qui ont 50, 100 ans derrière elles. Elles seront encore là dans 50, 100 ans et pendant toute cette période-là, elles vont vous payer les dividendes. Et si vous sortez pas de votre plan avant 8 ans, vous n'avez pas de prélèvements fiscaux dessus. Vous avez juste les charges sociales.
Et comme c'est toujours intéressant de bien connaître le système monétaire et économique français, Gérard-Marie-Henri, à partir du moment où on est resté 8 ans avec nos entreprises, qu'on a reçu les dividendes, est-ce qu'on peut être imposé sur ces dividendes?
Non, non, non. Tout ce que vous avez gagné pendant cette période n'est pas imposable, sauf ce qu'on appelle les charges sociales. Mais autrement, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu de ces gains. Donc c'est vraiment assez intéressant. On a, alors vous, là, pour aider les riches, qui sont ceux qui vont bénéficier de ça, on a un plafond de PEA qui est fixé à 150 000 euros, mais par personne. Donc si vous êtes en couple, vous pouvez aller jusqu'à 300 000. Et donc au bout de 5 ans, les dividendes, les plus-values sont exonérés d'impôt sur le revenu. Et donc il ne faut pas faire de retrait avant 5 ans. Donc ça, c'est ce que vous avez mis sur votre compte, votre plan d'épargne-action, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Par contre, sur le compte titre, vous pouvez dire, bah, hop, il faut que je change de voiture, peut-être que je vais bazarder mes actions du compte titre, tandis que sur le PEA, il ne faut pas le faire, il faut que ce soit vraiment de l'argent dont vous n'ayez pas besoin. Et ce PEA, évidemment, va être normalement un moyen de préparer votre retraite, de faire en sorte que ben, vous ayez un capital qui va venir s'ajouter à ce que vous aurez par, de votre retraite par répartition, qui ne va pas dans 10, 20 ou 30 ans être formidable.
Eh bien, en tout cas, Gérard-Marie-Henri, je sais que vous aviez plein d'autres conseils à donner. Peut-être qu'on aura l'occasion, j'allais dire, de faire une suite à cette chronique. Mais en attendant, vous avez également anticipé, vous aimeriez bien orienter les auditeurs de RCF qui sont intéressés par l'investissement en bourse vers quelques conseils pratiques. Alors pour ça, il y a votre blog, évidemment, gérardmariehenri.com. Et puis, je crois que Fabrice Gironnet a trouvé une solution pour essayer d'éditer le texte à l'intérieur de votre chronique. On va sur le site rcf.fr, dans la rubrique programme. On cherche les questions d'économie à Gérard-Marie-Henri. Et sur ce thème précis de l'investissement en bourse, on pourra peut-être retrouver quelques lignes qui apporteront des conseils pratico-pratiques. Sinon, sur le blog de Gérard-Marie-Henri, on a toutes les bonnes astuces, j'allais dire.
Oh, mais c'est excellent. Merci Fabrice de mettre à la disposition des auditeurs un petit peu le support que j'ai essayé de condenser. Mais si il y a un peu plus sur le site de RCF, c'est vraiment excellent.
Un grand merci Gérard-Marie-Henri et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt à tous.
Le 18-19 sur RCF.
À 18h21, direction les Ardennes, direction Villers-le-Tilleul, ce jeudi, avec un maire qui nous parle, Jean-Pierre.
Jean Barois, bonjour.
Bonjour, voilà.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion de découvrir votre commune, une belle commune dans les Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Villers-le-Tilleul? Combien d'habitants, monsieur le maire?
250 habitants.
250 habitants. Alors que font ces habitants? Des agriculteurs, mais j'ai appris aussi, on va en parler, qu'il y a un golf chez vous, le golf des Pourceaudes, et on va en parler. Alors, des habitants qui sont agriculteurs, qui sont...
Ah oui, il y a quatre grosses fermes, puisque maintenant, il y en avait 15 auparavant, hein, dans les années 50, aujourd'hui il y en a 4. Puis voilà, mais les hectares sont tous exploités, évidemment. Mais c'est pas le gros problème, enfin problème des agriculteurs, vous les connaissez, on en parle tous les jours. Bon, mais enfin, de toute façon, ça, on va pas en parler. Mais les habitants sont majoritairement chez PSA, parce que l'usine Citroën est tout près, là. À un moment, on avait 10 foyers qui travaillaient chez PSA, hein, à peu près. Alors, puis le reste, ben, des retraités. Mais il y a quand même, on a quand même eu 3 naissances l'année dernière.
Des jeunes qui viennent.
Aucun décès, oui, voilà, des bébés. Oui, voilà.
Mais vous-même, on peut dire que vous êtes Jean Barois, conseiller municipal depuis des années. Vous avez été adjoint et vous êtes maire depuis combien de temps, vous?
Alors, moi, j'étais élu conseiller municipal en 1977. Et premier adjoint en 1989 et maire depuis 1995.
Et alors, monsieur le maire, justement, on va parler de Villers-le-Tilleul. Vous avez aussi, on peut le mentionner, d'autres responsabilités. Vous êtes maire, mais vous êtes président d'un certain nombre d'associations, oui, et de groupements.
Voilà. Hein. Oui, je suis président d'un syndicat, ainsi vu, le pôle scolaire Robert Gobez à Poitéron. C'est une école qui regroupe 9 communes. Nous avons 190 élèves environ. Par contre, là, moi, puisque ça fait 15 ans que j'y suis, on a eu jusque 240 élèves et on est à 190. Donc, c'est un
mais
peu
c'est un groupe, c'est un pôle scolaire important, hein, celui de Poitéron,
ouais,
quand même.
Ouais, hein. Oui, c'est déjà quand même un gros pôle scolaire. Mais on a une baisse démographique, c'est ça qui est un peu gênant pour faire notre trésorerie, hein, parce que tout est lié à l'élève, hein, puisqu'on prend 1400 euros par élève pour gérer l'école.
Alors, monsieur le maire, parlons du golf, parce que c'est un golf qui mérite le détour. Il n'y a quand même pas beaucoup de golf dans les Ardennes, et là, c'est sur le territoire de votre commune. Et c'est très connu, d'ailleurs.
Ah oui, c'est le seul golf des Ardennes, avec un 18 trous, un putain de golf, avec un greenkeeper, enfin bref, un professeur, quoi, aussi, de cours de golf. Ils sont environ 250 adhérents. Mais c'est pareil, ils ont beaucoup de mal aussi à gérer ce club, parce qu'il y a quand même les jardiniers, il y a beaucoup de frais.
Il y a beaucoup d'entretien. Un golf, il faut que ça soit, surtout si c'est un golf 18 trous, renommé, il faut tenir le standing.
Ah ben oui, vous voyez bien, il y a beaucoup de tontards. Vous voyez bien, à gauche, comment c'est? Il y a 4 salariés en pleine saison. Il y a même une charge
beaucoup de frais. Beaucoup de frais. Oui, bah oui. Alors, là, il y a un problème qu'on peut évoquer, mais parce que vous l'évoquez partout, vous l'avez évoqué au moment de vos vœux. Présentez-nous un petit peu la question. Il y avait un bâtiment important qui se trouvait à côté du golfe, qui appartenait au conseil départemental des Ardennes, qui l'a vendu pour un projet immobilier. Expliquez-nous, et puis ça n'a pas marché.
Voilà. Alors donc, le département a vendu le site des Pourceaux d'un 35 hectares avec un corps de ferme, hein, où la société, je l'ai nommée, hein, Société Béjot de Belge, devait faire un projet touristique avec des gîtes, trois gîtes, des cottages, des salles de réunion, séminaires, enfin les séminaires, enfin bref, avec une piscine, et tout est arrêté depuis 3 ans. Les terrains se trouvent sur un... pas mal de terrains qui sont en zone humide. Vous savez que maintenant, on ne peut plus toucher aux zones humides où il faut des hectares de compensation. Ça a un peu bloqué le projet au niveau de la construction. Mais la ferme qui est existante, elle, ils avaient les permis de construire. Hein, tout était accordé. Ils n'ont rien fait. Tout est en train de se dégrader. Les toitures sont envolées. Les murs s'effondrent. Alors, ça va devenir une ruine.
Ça, en quelque sorte, Jean Barois, vous lancez un appel parce que il faudrait que ça soit repris. Et puis surtout, c'est pas loin du golfe. Enfin, je veux dire,
c'est côte à côte.
Alors
c'est
le golfe qui veut quand même du standing, il a à côté de lui maintenant des friches.
Oui, et puis le golf, il cherchait des chambres, un hôtel ou des logements. Et comme sur le golf, la propriétaire voulait faire un hôtel, mais comme elle ne se trouve pas dans la carte communale, ces terrains, donc elle ne peut pas construire. Donc, mais sur ce terrain-là d'en face, où les Belges sont propriétaires, il y a possibilité de construire. Mais
alors, nos amis belges, parlons-en de ces amis belges. Eux, ils ont pas fait le projet prévu, mais ils sont toujours propriétaires de l'endroit. Donc, ils peuvent vendre à d'autres qui pourraient reprendre le truc. Mais alors, ils ont mis la barre tellement haut qu'il n'y a plus d'acheteurs. Il y a des acheteurs que vous voyez, mais ils n'ont pas l'argent nécessaire.
Voilà, les acheteurs que j'ai vus, moi, c'est moitié prix de ce que les Belges demandent. Voilà, alors évidemment, ça, c'est pas vendu, ça fait 3 ans que c'est pas vendu, les prairies sont même pas fauchées, tout est en friche.
Alors ça, c'est quelque chose quand même, vous avez alerté les pouvoirs publics, les aides des parlementaires.
Oui, voilà, d'accord.
Alors on peut espérer quand même, parce que vous-même, Jean Barois, vous en recevez des personnes qui seraient éventuellement intéressées.
Oui.
Donc il y a quand même des gens intéressés qui viennent. Cela dit, ils proposent la moitié du prix que proposent les Belges.
Voilà, tout à fait.
Alors il faut espérer que les points de vue se rapprochent, que les Belges propriétaires soient moins exigeants, et puis que les autres rajoutent un petit peu pour que puis... Alors est-ce que les collectivités locales peuvent aider? Je ne sais pas, parce qu'ils ne veulent plus, s'engager non plus.
Si, la région Grand Est, vous savez, ils ont un gros projet de rénovation du patrimoine. Enfin là, parce que c'est quand même patrimoine, c'est une ferme du 16e siècle ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas classé, mais enfin, les dépenses pour remettre en état sont tellement énormes que les subventions ne seront pas à la hauteur. Il faut plusieurs millions d'euros. Enfin,
en tout cas, s'il y a une aide de la région, c'est toujours ça de prix pour un éventuel repreneur. Donc peut-être que si vous aviez des assurances de la part du conseil régional, en mettant ça dans la balance avec un repreneur qui vient vous voir, peut-être qu'il se laissera convaincre s'il sait qu'il aura une petite aide supplémentaire. Enfin, faut espérer.
Voilà. On l'avait signalé, cette chose-là. Mais bon, les Belges, c'est une agence immobilière belge avec qui les clients vont voir. Ils n'ont pas de pouvoir de négociation, me semble-t-il, pour l'instant.
Oui, disons qu'en parlant clairement, nos amis belges, on aime bien les Belges, mais là, ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Ils ne sont pas très conciliants, quoi.
Voilà.
Bon, écoutez, Jean Barois, on a encore une minute avec vous. C'est une belle commune, Villers-le-Tilleul. D'ailleurs, rien que dans le nom, d'ailleurs, le Tilleul. Mais vous faites ça vient d'où, le Tilleul?
Mais parce qu'il y a quand même pas mal de tilleuls, il y en avait à tous les coins de la commune, à chaque entrée il y avait des tilleuls, bon, il y en a qui sont disparus ou qui sont morts, mais on en a replanté nous, puisque c'est quand même le but d'en garder, hein. On en a replanté. Donc, mais on a fait quelques travaux aussi de voirie, on a fait de l'emplissement, on a fait un rond-point, vous avez bien.
L'embellissement du village. Ben, écoutez, Jean Barois, je vous promets, parce que vous êtes dans nos petits carnets, c'est de refaire une émission avec vous, parce que on a fait le tiers de ce qu'on devait faire dans cette émission qui dure 9 minutes. On vous rappelle d'ici un mois et demi, avant la fin de l'année, bien entendu, la fin de l'année scolaire, avant le mois de juin. Et puis, on reparlera de tout ça. Peut-être qu'on aura une bonne nouvelle. Vous rendez compte, un repreneur.
Si votre antenne touchait quelques personnes qui seraient intéressées ou nos amis les Belges, les propriétaires, qui pourraient évidemment baisser un peu les prix, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose.
En tout cas, on laisse cet appel, on lance cet appel, que Villers-le-Tilleul, ça vaut le détour. C'est une belle commune des Ardennes avec le golfe des Pourceaudes qu'on connaît bien. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jean Barois, et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Effectivement, un grand merci à Jean Barois. Merci aussi à vous, Jean-Pierre. Tout de suite, à 18h30, place au journal régional sur RCF. Avec les titres de ce jeudi 21 mars, dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, dans toute l'ex-Champagne-Ardenne, journalistes, enseignants et élèves se mobilisent. Tour d'horizon des initiatives prises pour petits et grands. À Châlons-en-Champagne, plus d'une soixantaine de métiers seront présentés sous forme d'escape game lors du premier forum d'Estipro organisé demain au marché couvert. Présentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Avant de développer ces titres, on se fait le relais d'une information de nos confrères de l'Union qui informe par la voix de Fabrice Poquet, nouveau directeur de l'aéroport de Vatry, que celui-ci n'est plus à vendre et va bénéficier d'une grosse campagne de communication concernant le plan social. Là aussi, clap de fin après 9 licenciements. On note des départs de fin de mission et des fins de contrat en CDD. Si au plus fort de l'activité, 130 personnes travaillait sur le site. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 77. On vous en a déjà parlé cette semaine. La semaine de la presse et des médias à l'école a débuté lundi. Une semaine qui a pour objectif d'aider les élèves de la maternelle au lycée à comprendre et décrypter l'univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l'information, développer le goût pour l'actualité et forger leur identité de citoyen. Tour d'horizon ce soir des différentes initiatives proposées dans l'ex-Champagne-Ardenne, en commençant par une menée dans le premier degré, présentée par Sandrine Niogré-Vitry, conseillère pédagogique départementale en charge du numérique à la direction des services départementaux pour l'éducation nationale de la Marne.
En lien avec les enseignants référents dans les usages du numérique qui travaillent dans les différentes circonscriptions de l'éducation nationale. Il y a 12 personnes au total, donc qui sont sur le terrain pour animer des jeux autour de la découverte du métier de journaliste. En fait, c'est simple, c'est donc une activité qui est issue du Clémy, donc c'est un jeu qui a été fabriqué par le Clémy. Donc les enfants visionnent au départ un teaser, donc il y a deux fauves qui se sont échappés d'un zoo à Nancy, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ensuite, donc on leur fait écouter des témoignages, donc il y a le directeur du zoo, le vétérinaire, un chasseur, les gendarmes, etc., pour justement essayer de trouver des indices pour construire ensuite le reportage pour savoir qu'est-ce qu'il s'est passé.
Un jeu accessible du CE2 au CM2. Au collège Léo Lagrange de Charleville-Mézières, durant toute la journée, ce jeudi, des élèves venus de plusieurs établissements ont fabriqué leur propre émission radio. Faisal Abderrezek, coordinateur du Clémy et responsable de la classe horaire aménagé radio.
C'est une grosse journée pendant laquelle on va inviter 6 établissements qui ne sont pas forcément des habitués de la radio à fabriquer ensemble un journal radio sur la journée. C'est-à-dire que tout va se faire dans l'énergie de la journée pour arriver à un direct qui sera à 16h. 9h, conférence de rédaction. Les élèves reçoivent leur sujet avec un petit peu de documentation, une feuille de route qui leur permet de préparer la manière dont ils vont le traiter. Ils vont dans Charleville, aux alentours de notre base qui sera canopée, près du palais de justice. Ils vont dans Charleville réaliser leur prise de son. Et ensuite, le montage se fait en début d'après-midi. La préparation de l'émission en parallèle et tout est en direct à 16h.
Dans l'académie de Reims, les lycéens ne sont pas en reste, comme en témoigne Jackie Ferry, délégué académique à la vie lycéenne et collégienne au rectorat de Reims.
La première initiative, c'est déjà d'avoir réalisé un podcast avec les élèves élus au conseil académique de la vie lycéenne, qui sont partie prenante de cette semaine de la presse et qui voulaient justement faire une émission sur l'info et comment leurs camarades, leurs pairs, pouvaient s'informer. Ce sont déjà des élèves qui ont un fort potentiel de communication. Moi, ce que je leur apporte avec mes collègues, c'est leur faire découvrir l'enregistrement, le montage. La première émission, ça a été déjà des enregistrements avec un téléphone portable et puis après un montage. La deuxième, on l'a réalisée à Canopée, c'est aussi notre partenaire, hein, Canopée 51. Et la troisième, c'était un enregistrement dans les locaux de RCF. Voilà, donc un vrai local, on va dire, de professionnels.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardennes sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne, tout niveau confondu, 87 établissements, plus de 14 500 élèves et un peu moins de 1300 professeurs sont mobilisés. Le château Mermoz de Roquigny dans les Ardennes, ancienne maison de la mère de Jean Mermoz, a été sélectionné en Grand Est parmi les 18 sites emblématiques retenus pour la 7e édition du Loto du patrimoine 2024 qui sera lancé en septembre prochain, une initiative soutenue par Stéphane Bern pour réhabiliter les lieux, un projet à 6,3 millions d'euros est lancé. Dans le cadre de son initiative visant à renforcer les liens entre les entreprises locales et les établissements scolaires de la région, le comité local École-Entreprise lance son événement phare, le DestiPro Forum des métiers 2024, ce vendredi. Pour le représentant du comité, Renaud Vernet, c'est offrir aux jeunes la chance d'explorer un large éventail de métiers.
On est parti d'un constat vraiment simple. Le fait autour de nous, les jeunes, notamment les collégiens, avaient du mal à définir ou à choisir un métier au-delà de leur propre cercle familial. À notre sens, quand je dis notre sens, c'est aussi bien l'éducation nationale que le monde professionnel. Il nous semblait important d'ouvrir justement ce champ des possibles professionnels et de mettre ce qu'on appelait, nous, à l'époque, le forum des métiers.
Un forum des métiers avec un accompagnement ludique pour les étudiants.
On voulait changer, on voulait réinventer un petit peu le concept même de Forum des métiers. Sur la journée qui aura lieu le 22 mars de 9h à 16h30 pour les collégiens, on va recevoir un peu plus de 1200 collégiens, c'est énorme. On va les recevoir sous forme de vagues et chaque vague aura son propre rythme. Premièrement, avec la mise en place d'un jeu sous format Escape Game où on va inviter les jeunes à aller voir les professionnels avec des fiches questions sous forme d'énigmes et les intéresser, débloquer un petit peu leurs questions. Ensuite, sur la deuxième partie, ils pourront aller poser des questions un peu plus précises aux professionnels.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Près de 1200 élèves de l'agglomération chalonnaise seront présents, ainsi qu'une soixantaine d'entreprises marnaises. Le forum aura lieu donc demain, vendredi 22 mars, au marché couvert de Châlons-en-Champagne, uniquement aux collégiens et lycéens de 9h à 16h30, puis pour le grand public à partir de 16h30 jusqu'à 18h. On termine le journal avec la page météo. Marion Yernard, notre stagiaire à la rédaction, vous a préparé les tendances de ce vendredi. Bonsoir Marion.
Bonsoir Alexis.
Alors quel temps pour demain en Champagne-Ardenne ?
Au programme pour ce vendredi 22 mars, de la brume dans toute la région et 10 degrés le matin. Celle-ci se lèvera en milieu de matinée pour laisser place au soleil et aux 18 degrés dans l'après-midi sur tout le territoire. Nous aurons un beau coucher de soleil demain, car celui-ci restera jusqu'au lever de la nuit, qui sera à 18h59. Quant au lever du soleil, il sera à 6h42. Pour clôturer la météo, Alexis, je te dirai de ne pas oublier la Sainte Léa demain, vendredi 22 mars. Bonne soirée à toutes et à tous.
On va faire en sorte, effectivement, de ne pas oublier les Léas, ça serait dommageable. Merci Marion, on vous retrouve demain. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et à 18h38, en cette période de carême, on continue nos rencontres. Ce jeudi soir, comme promis hier d'ailleurs, nous sommes avec le père Étienne Ruatugili qui nous rejoint en studio. Père Étienne, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci de passer par nos studios pour répondre à la question que l'on pose à l'ensemble des prêtres, des religieux, des religieuses du diocèse de Reims et des Ardennes pendant ce temps du carême. Que représente le carême pour vous, Père Étienne ?
Le temps du carême, c'est essentiellement un temps de conversion où on s'attelle surtout à la prière. À la prière, c'est très important pour qu'on puisse vraiment revenir à Dieu et vraiment faire le chemin vers Pâques.
Et vous, particulièrement, comment vivez-vous ce temps du carême ?
Ce temps de carême pour un prêtre comme moi en paroisse, c'est d'abord un temps de célébration. Nous avons les célébrations pénitentielles à gauche, à droite, comme nous avons un secteur un peu plus grand, mais aussi un temps de prière personnelle, un temps aussi de visite à domicile, de visite aux malades, mais aussi de visite des équipes, des groupes de prière à gauche, à droite. On peut les encourager, les exhorter en priant avec eux, ou tout simplement en célébrant des messes pour eux.
Justement, vous parlez de beaucoup de temps qui sont des rencontres en communauté, on peut le dire comme ça quelque part.
Exactement.
Ces temps de rencontres, le fait de vivre le carême à plusieurs, ensemble, ça renforce ce côté très fort du carême?
Exactement, parce que un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Donc nous essayons vraiment d'encourager les équipes pour qu'ils puissent prier ensemble, même les activités ensemble. Ça permet vraiment de s'encourager et d'aller de l'avant.
Alors au moment de cette diffusion, peut-être que des initiatives ont déjà été lancées, mais par exemple dans l'espace missionnaire Tardenoisvelle, là où vous êtes prêtre, Père Étienne, est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières qui se font en communauté, en paroisse?
Oui, il y a des initiatives qui ont été lancées. On a surtout comme activité principale, nous avons incité les équipes qui se trouvent sur le territoire à revoir et surtout à connaître la lettre pastorale de l'évêque, et nous allons essayer de la lire et de la comprendre ensemble. Toutes les équipes dans les paroisses différentes vont essayer de faire en sorte que cette lettre soit connue et soit surtout lue et relue.
Ce temps de carême, il est souvent associé à un temps de privation où l'on doit faire des efforts. Est-ce que vous-même vous sentez ou vous consentez à faire quelques concessions sur le plan personnel pendant cette période du carême?
Absolument, absolument. Même le fait vraiment d'essayer d'accompagner les équipes, c'est déjà un effort. Mais aussi, personnellement, beaucoup prier personnellement et surtout lire la parole de Dieu et essayer de méditer cette parole de Dieu parce que c'est la source de notre vie chrétienne.
Et merci en tout cas, Père Étienne, d'être passé par nos studios pour nous dire comment vous vivez ce temps du carême. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite évidemment un bon carême.
C'est moi qui vous remercie.
Le 18-19 sur RCF.
18h41, nous on part souffler des bougies à Châlons-en-Champagne désormais. Le collège Saint-Étienne, celui que l'on nomme désormais le cours Saint-François d'Assise, fête ses 150 ans, un événement qui sera fêté ce samedi. Retour sur son histoire et présentation des festivités avec Céline Cartier, directrice du cours Saint-François d'Assise, et Catherine Ladier, membre du comité de préparation pour les 150 ans du collège, au micro de Christopher.
Céline Cartier, bonjour.
Bonjour Christopher.
Accompagnée de Catherine Ladier, bonjour.
Bonjour Christopher.
Merci mesdames d'être avec nous aujourd'hui sur RCF pour parler de cet événement exceptionnel, notamment pour le collège Saint-Étienne. Je le disais en introduction, que Céline Cartier, que l'on nomme aujourd'hui le cours Saint-François d'Assise. Pourquoi ?
Ah ah, alors pourquoi ? Tout d'abord, chacune de nos entités, nous avons l'école maternelle, Sainte-Thérèse, l'école élémentaire, Prilly, et puis notre collège, Saint-Étienne. Et école et collège fonctionnent désormais ensemble. Il nous fallait un projet fédérateur, nous avons créé un projet éducatif, mais il nous fallait aussi un nom de ralliement. Et notre évêque nous a proposé ce nom de cours Saint-François d'Assise. Donc ça signifie que le cours Saint-François d'Assise est le regroupement des deux écoles et du collège,
oui.
Chacun des établissements gardant tout de même son identité. J'ai des attachés à Sainte-Thérèse, des attachés à Prilly,
oui.
Et évidemment l'amicale des anciens qui est extrêmement attachée à Saint-Étienne. Mais c'est vrai que nous communiquons au nom du cours Saint-François d'Assise pour bien montrer qu'on accueille les enfants de la petite section à la troisième, et puis après, ils vont vers notre grand frère qui est aux Anam.
Donc on parle bien d'un groupement, mais chaque établissement garde son identité de base.
Bien sûr, bien sûr.
Donc depuis combien de temps ce groupement ?
2 ans.
2 ans désormais.
Oui.
Et donc on va parler maintenant des 150 ans du collège Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Catherine Ladier, fondée donc en 1874, longue histoire.
Exactement, une très très longue histoire effectivement, émaillée de beaucoup d'événements, mais qui a permis effectivement de maintenir à toute époque un esprit, en sachant donc qu'en 1874, le Monseigneur Ménian voulait à la fois former des prêtres et former des laïcs.
D'accord.
Des laïcs qui éventuellement par la suite pouvait s'engager, parce qu'il s'était aperçu qu'on est dans une région qui était particulièrement déchristianisée et où il manquait une formation à la fois spirituelle et en même temps une formation sur le plan intellectuel pour les enfants de la ville et les agriculteurs de la région.
Donc les choses démarrent plutôt bien en 1874. Malgré tout, quelques années plus tard, on va dire aux alentours de 1905, c'était une année à haut risque pour cet établissement.
Oui, tout à fait. 1905, avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, les communautés religieuses sont interdites d'enseignement. Et la chance de l'institution Saint-Étienne, comme on le dénommait à l'époque, ça a été d'être un lieu où en fait les enseignants bien sûr étaient des prêtres, mais où en fait les locaux appartenaient à une société civile immobilière, donc ne rentraient pas dans le fait de risquer de perdre ses biens au moment de cette fameuse loi de séparation de l'Église et de l'État. Et les prêtres n'étant pas une communauté n'ont pas été exclus non plus de l'enseignement.
Alors, le collège Saint-Étienne, Catherine l'a dit, a connu forcément et vécu, j'ai envie de dire, la Première Guerre mondiale.
Oui, bien sûr, pendant toute la Première Guerre mondiale, le collège est devenu en fait un hôpital pour accueillir les blessés. Et entre 1914 et 1919, il n'y avait donc pas d'élèves dans le collège, mais simplement les blessés de guerre.
Pendant toute la durée de cette Première Guerre mondiale.
Pendant toute la durée de la Première Guerre mondiale, oui.
Le Collège Saint-Étienne connaîtra un jumelage, on peut dire, avec un autre établissement du côté de l'Allemagne.
Oui, c'est en 1955 que le père Péardel, un prêtre qui était donc enseignant d'allemand, réussit un des premiers jumelages de France, qui est un jumelage avec le Johannes Gymnasium de Liechtenstein, qui va permettre à des étudiants et des élèves français de partir en Allemagne et à des Allemands de venir en France. Parmi les premiers à avoir participé à ce jumelage, il y a un ancien enseignant de Saint-Thé et de Péguy, Charles-Marie Gessner, qui très tôt en fait est parti dans ces conditions-là en Allemagne. Le but du père Perardel était de faciliter la connaissance entre les Allemands et les Français de façon, bien évidemment, c'était l'objectif à l'époque, d'éviter les conflits à nouveau, puisque bien évidemment, il n'y a pas eu que la guerre de 14 à subir, mais il y a aussi eu la Deuxième Guerre mondiale à cette époque-là, qui a aussi énormément coûté dans la région et à nos prêtres.
Un autre moment fort dans l'histoire, Catherine Ladier, c'est l'arrivée des filles au Collège Saint-Étienne ?
Tout à fait. C'est en 1980 que l'on voit arriver pour la première fois des petites filles dans nos locaux. Et effectivement, ça a été un grand changement. Elles n'étaient pas très nombreuses au début, mais rapidement, elles ont tenu leur place dans l'établissement.
Céline Cartier, directrice du cours Saint-François-d'Assise, est toujours avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter l'anniversaire. C'est dans quelques jours, c'est ce samedi 23 mars pour fêter donc les 150 ans du Collège Saint-Étienne qui aura, j'ai envie de dire, deux temps forts, à la fois la visite l'après-midi puis la célébration à la cathédrale.
Oui, c'est tout à fait ça. Alors c'est une mission qui est enthousiasmante, qui est délicate aussi parce qu'il faut froisser personne et trouver le bon rythme. On a travaillé en comité de pilotage et je remercie Monsieur Machet qui est le président de l'Amicale des Anciens qui s'est beaucoup investi, qui a eu des propositions, j'allais dire, marquantes et qui, je pense, donneront une image vraiment vivante de notre établissement. Puis c'est une responsabilité de fidélité en esprit parce que Saint-Thé, c'est voilà, fier d'être à Saint-Thé, c'est quelque chose d'important. Alors dans un premier temps, on a concocté quelques surprises. Il y a des discours, certes, mais il y a surtout des salles qui ont été aménagées avec des salles aménagées 1900-1930, 1980, puis actuellement, on a retrouvé énormément de photos. Moi, j'ai beaucoup lu sur l'abbé Denis, sur le père Paul Thiébaud. Donc, on retourne sur les traces et c'est très, très, très émouvant. Et puis d'entendre les anciens témoigner de ce qu'ils ont vécu, de cet internat où il y avait plus de 300 internes oui. À l'époque. C'est quelque chose d'incroyable et des souvenirs, d'ailleurs, d'anecdotes assez croustillantes, hein, parfois, et on se dit waouh, quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un moment important. Donc, on aura des salles à visiter. On a également notre club théâtre qui a traversé le temps et on a retrouvé des costumes, des photos. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, on va rendre un hommage aussi à notre bon père Paul. Alors, non pas que d'autres n'ont pas compté autant que lui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient régulièrement et on a eu la joie de retrouver dans nos recherches ses cahiers où il préparait ses cours de caté. Tout est dans un classeur écrit de sa main avec des dessins. Et puis, on a retrouvé, je sais pas, une centaine de faire-part de naissance ou de faire-part de mariage qu'il a reçu des anciens qui lui envoyaient déjà. Et c'est aussi très émouvant. Ça nous a permis aussi de redonner des faire-part de naissance à des anciens élèves. C'était assez émouvant et assez drôle à la fois. Donc c'est à la fois quelque chose, un événement exceptionnel et en même temps ça touche le cœur et je trouve que ça correspond bien à Saint-Thé, le cœur et l'esprit. Eh bien c'est ce que l'on va essayer d'honorer samedi prochain.
Voilà, 13h30, 17h30, sans oublier donc la célébration à la cathédrale, voilà. 17h45.
Le point d'orgue à 17h45. Donc c'est vrai que l'après-midi est ouverte de 13h30 à 17h30 à tous. La messe, voilà, également. Et puis ensuite, on poursuivra les festivités pour les initiés.
Les 150 ans du Collège Saint-Étienne de Châlons-Champagne à vivre ce samedi 23 mars à partir de 13h30. Merci Céline Cartier, directrice du cours Saint-François d'Assise, d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à Catherine Ladier, membre de préparation pour les 150 ans du Collège Saint-Étienne de Châlons-Champagne. Très bonne fin de semaine et bel anniversaire samedi.
Merci Christopher depuis les studios RCF à Châlons-en-Champagne. Le temps d'une virgule et on accueille de nouveaux invités en studio à Reims cette fois.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Dans nos studios, on a le plaisir de recevoir deux invités. Stéphane Flandre, fondateur, président, directeur général d'Initial Expertise. Stéphane, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous faire l'amitié d'être en studio. Vous êtes venu accompagné de Arnaud Degler, directeur de la communication et de la formation, toujours chez Initial Expertise, évidemment. Arnaud, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Avec cette première question que nos auditeurs doivent se poser, Initial Expertise, de quoi s'agit-il, Stéphane Flandre ?
Alors, Initial Expertise, c'est une société que j'ai créée il y a 5 ans sur Reims. On accompagne en fait les entreprises et les collectivités locales dans leur sujet de décarbonation et d'optimisation énergétique.
Alors, lorsque l'on parle de décarbonation, d'optimisation énergétique, c'est des sujets qui sont en vogue, qui sont dans l'air du temps. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Concrètement, en fait, on accompagne nos clients qui ont du patrimoine immobilier, une industrie, un bâtiment tertiaire, et on l'accompagne dans toute une stratégie, en fait, d'optimisation des flux énergétiques.
Ça veut dire que vos clients, vous allez les accompagner à se transformer, à évoluer aussi?
Oui, absolument. Donc tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle la RSE, dont on entend beaucoup parler. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de faire des économies d'énergie, faut être clair. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, le prix de l'énergie qui a beaucoup augmenté. Et en fait, ça devient, alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça devient une opportunité pour vraiment regarder les flux énergétiques et vraiment faire très très attention à dépenser juste ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire tourner un bâtiment, une industrie, etc.
À qui ça s'adresse, ce genre de prestation? Est-ce que c'est tout public? J'allais dire, l'auditeur lambda de RCF peut se sentir concerné, ou vous visez quand même plutôt des chefs d'entreprise, quelle que soit d'ailleurs l'échelle, la taille d'une entreprise?
C'est vrai qu'on est quand même beaucoup plus orienté aujourd'hui sur les entreprises, les industriels, les maisons de champagne, les collectivités locales également.
Parce qu'il y a un véritable enjeu RSE avec des entreprises qui prennent de plus en compte la dimension écologique?
Absolument. C'est eux qui tirent un petit peu aussi ces sujets-là, faut être clair, parce qu'ils ont aussi les épaules pour pouvoir mener ces stratégies, sur le moyen, sur le long terme. Et donc, effectivement, on les accompagne sur une stratégie pluriannuelle pour avoir une décarbonation globale de leurs activités.
L'entreprise Initial Expertise, dont vous êtes le PDG et fondateur, Stéphane Flandre, elle est implantée à Reims. Votre champ d'action, c'est la Marne, les Ardennes, mais aussi, je veux dire, au niveau national, international, parfois, il y a des ouvertures qui se créent?
Alors oui, il y a des ouvertures. Il nous arrive de travailler à l'international. Nos derniers sujets étaient en Birmanie notamment, en Belgique également. Mais vraiment, on a comme projet de s'intégrer et de s'implanter vraiment très très fortement sur la Marne et les Ardennes notamment. Moi, je suis un Rémois, pure souche. Alors même si je suis un peu parti pour mes études, etc. Moi, Reims et la Marne et les Ardennes sont vraiment mes secteurs de développement privilégiés. Et oui, donc notre zone, elle est plutôt sur Marne, Ardennes, Aube.
D'ailleurs, sans trahir de secret, puisque vous parliez un petit peu de votre parcours, vous êtes notamment passé par le lycée Jean-Baptiste de la Salle.
Oui, absolument.
Pas très dans nos studios, à différentes fonctions, notamment en tant qu'étudiant, avant de faire aussi d'autres activités, avant de vous lancer dans ce cabinet Initial Expertise. Je me tourne vers Arnaud Degler, le directeur de la communication, justement, dans cette entreprise Initial Expertise. Arnaud Degler, cet ancrage local que soulignait Stéphane Flandre à l'instant, il est important. Vous connaissez plutôt le territoire des Ardennes à l'origine, mais vous avez aussi eu une vie étudiante ailleurs en France, notamment dans le nord, du côté de Lille, etc. C'est important de bien connaître son territoire, de connaître aussi les gens qui y vivent.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un enjeu fondamental pour Initial Expertise. Nous sommes une société à mission depuis un an. Et donc, qui dit société à mission dit remplir un rôle sur le territoire auprès d'un certain nombre de parties prenantes. Alors, Initial Expertise aujourd'hui a une diversité de partenaires. On va en citer quelques-uns. Nous sommes partenaires d'un acteur sportif majeur du territoire qui est le club de basket, le Champagne Basket, de deux structures culturelles sur le territoire qui sont la cartonnerie, la salle de concert de la ville de Reims, mais également le festival du Cabaret Vert dans les Ardennes, territoire effectivement qui est cher à mon cœur, le festival du Cabaret Vert que nous accompagnons sur le volet décarbonation, on va dire, du festival. Nous accompagnons également le Crépi, qui est une structure qui travaille sur l'insertion professionnelle sur le territoire, et puis depuis peu, nous participons également à une mission internationale, puisque nous travaillons avec Électriciens Sans Frontières, avec un partenariat signé avec la délégation Lorraine-Champagne. campagne ardennes. Donc oui, l'ancrage territorial, c'est extrêmement fondamental pour nous. On travaille avec des structures qui font rayonner le territoire et il nous tient à cœur vraiment de soutenir ces structures du territoire qui font vivre le territoire. Voilà, si on devait résumer, Enisa Expertise est une entreprise de territoire.
Alors lorsque vous parlez de société à mission, Arnaud Deglaire, on imagine, et de partenaires également, on imagine que derrière tout cela, il y a des objectifs. Les objectifs, Stéphane Flandre, Arnaud Deglaire, je ne sais pas qui veut les citer, mais j'imagine qu'il y en a quand même un certain nombre et qu'ils sont définis au préalable pour lorsque vous allez taper à la porte d'une entreprise, leur dire « voilà, on vous accompagne pour atteindre tel but en faisant les choses de telle manière ».
Oui, absolument. La société à mission, pour nous, en fait, ça veut dire, au-delà de l'entreprise, du modèle économique, évidemment, qui doit être rentable pour pouvoir se développer, c'est aussi vraiment avoir un impact sociétal positif. C'est avoir un vrai rôle à jouer aussi, au-delà de partenariats commerciaux qu'on pourrait avoir avec nos clients. C'est créer des partenariats aussi pour contribuer à notre petit niveau, évidemment, mais contribuer de manière profonde quand même à cette transformation qui est en train de se créer sur la transition énergétique.
Avec des certifications reconnues ?
Oui, absolument. Donc, quand on est société à mission, on s'engage. Nous avons réécrit les statuts complets de la société début 2023, avec des engagements chiffrés. Et ces engagements, ces objectifs seront regardés par ce qu'on appelle un comité mission. C'est un comité externe et qui vient regarder si effectivement on assume et on fait ce qu'on a dit ou en tout cas ce qu'on a écrit, quoi.
On comprend un petit peu mieux maintenant ce qu'est Initial Expertise avec vos explications, Stéphane Flandre, vous qui êtes fondateur, président, directeur général d'Initial Expertise. Arnaud Deglaire, je me tourne de nouveau vers vous en tant que directeur de la communication et de la formation. S'il y a parmi nos auditeurs des chefs d'entreprise qui se disent « mais tiens, c'est vrai que j'ai pas encore mis les pieds dedans et pourtant c'est le moment, ça y est, il faut se lancer ». Comment on prend contact avec vous? Comment on voit quelque part votre portfolio, ce que vous faites, les entreprises que vous avez déjà accompagnées, etc.
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs façons de suivre nos activités. Nous sommes présents notamment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur X et surtout sur le réseau LinkedIn. Nous avons également un site internet qui aujourd'hui est à jour de l'ensemble de nos réalisations et qui peut vous donner justement une perspective sur nos activités.
C'est un peu votre vitrine.
Ouais, c'est notre vitrine tout simplement. Et puis j'encourage ces chefs d'entreprise à venir nous rendre visite dans nos locaux. Nous sommes basés à Champigny, juste à côté de Reims, et ça sera avec plaisir que nous vous offrirons un café pour discuter des enjeux de transition énergétique.
Parce que c'est vrai qu'Initial Expertise, évidemment, il y a toutes les démarches que l'on a présentées. Le temps passe toujours très vite, mais il faut dire qu'il y a aussi d'autres enjeux. C'est une entreprise qui s'est implantée sur le territoire, qui a grandi rapidement. Aujourd'hui, ça représente quoi, Stéphane Flandre, en termes de salariés, d'études, d'entreprises accompagnées, etc.
Oui, alors nous sommes 20 salariés dans la société. Ça évolue relativement bien. Je fais attention à pas évoluer trop vite aussi. Pour moi, c'est un vrai sujet. Ce qu'on souhaite aussi, c'est attirer vraiment des talents pour pouvoir développer des activités nouvelles comme celle-ci. Garder nos talents, donc il y a tout l'esprit managérial aussi, l'intégration de nos collègues, de nos salariés, qui est extrêmement importante pour nous. Néanmoins, on a quand même effectivement des ambitions, puisque on sera probablement une quarantaine d'ici fin 2026, donc on aura probablement doublé nos effectifs. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment sollicité sur ces sujets. Je parle d'études de potentiel photovoltaïque, les énergies renouvelables, on en parle beaucoup en ce moment avec la loi qui a été votée, la loi d'accélération qui a été votée en 2023. Donc on a vraiment beaucoup à faire en fait pour accompagner nos partenaires, nos parties prenantes sur ces sujets-là. Si on parle de clients, on a à peu près 70 clients aujourd'hui.
Donc c'est quand même énorme, on voit que l'entreprise depuis 2018, elle a quand même déjà gagné en notoriété, qu'elle a réussi à s'implanter sur le territoire. Et si jamais nos auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent prendre contact avec vous, tout simplement, Stéphane Flandre, Arnaud Deglaire. Stéphane Flandre, un grand merci d'être passé par nos
merci
studios. Arnaud Deglaire également. On vous dit à très bientôt.
À très bientôt, merci pour votre invitation.
Merci pour votre accueil.
Et c'était un véritable plaisir de vous accueillir avec nous en studio, évidemment Arnaud Deglaire, Stéphane Flandre, pour parler RSE, des sujets sur lesquels on aura l'occasion de revenir certainement prochainement dans nos prochains programmes au fur et à mesure des semaines à venir. Il nous reste un petit peu de temps ce soir. Marion, vous êtes toujours avec nous et on va donner quelques rendez-vous à nos auditeurs. Vous serez avec nous demain jusqu'à 19h pour le Tendance Météo, ça vous le promettez à nos auditeurs, c'est une promesse?
Je vous le promets.
Et vous tiendrez votre promesse?
Je la tiendrai.
Merci, on vous a à l'œil, attention Marion. Les rendez-vous que l'on a donné à nos auditeurs, c'est la semaine prochaine, à l'occasion de la Semaine Sainte. Évidemment, avant cela, il y aura d'abord demain, vendredi, Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui sera dès 7h avec Jean-Pierre Benoît pour revenir notamment sur l'assemblée plénière des évêques qui s'est tenue à Lourdes cette semaine. Mais la semaine prochaine, donc, rencontre autour de la Semaine Sainte, avec mardi la diffusion de la messe chrismale pour le diocèse de Reims et des Ardennes sur RCF Reims-Sardaigne à la place du magazine régional, sur RCF Cœur de Champagne pour le diocèse de Chalon, bien évidemment, à la même horaire. Ça, c'est pour mardi. Et puis, il y aura également le Triduum Pascal qui vous accompagnera, des programmes nationaux qui seront enregistrés ou diffusés en direct depuis le monastère de Saint-Thierry dans le diocèse de Reims et des Ardennes. On aura l'occasion, jour après jour, de vous annoncer chacun de ces rendez-vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous promet des programmes exceptionnels pour vous accompagner tout au long de la semaine prochaine sur RCF Reims-Ardennes. Avant cela, on se retrouve une ultime fois cette semaine, demain, 18h10, pour le magazine régional. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais sur RCF et vos programmes locaux reviennent à 19h12 sur RCF Reims-Ardennes notamment, avec la méditation. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Marion, bonne soirée, à demain.
Bonne soirée, à demain.
C'était Fabrice Gironet ce soir à la mise en onde qui va passer le relais aux équipes nationales. On vous remercie pour votre fidélité.